Un soir, on frappe à la porte d'une ferme et rentre sans qu'on l'y invite un étranger qui dit s'appeler Jean, peut-être comme un certain Jean Giono, qui demande simplement de l'hospitalité, enfin un bol de lait et un peu de chaleur pour passer la nuit. Et en fait, cet étranger va être accueilli dans cette curieuse famille. Curieuse parce que c'est une famille frappée par un double deuil. Il y a déjà pas mal de temps, le maître de maison est mort et donc sa femme, Rosine, a dû prendre les rênes et s'occuper du quotidien avec toute la dureté, la difficulté du quotidien. Donc Rosine, qu'on appelle maintenant la sauvage, s'est durcie. Et puis il y a eu un deuil un peu plus récent qui est la jeune sœur du maître de maison, Marthe, qui est morte de façon tragique puisque une roche a dévalé la montagne et est venue se ficher en plein front. Et depuis, la mère de cette jeune femme, qui est en fait la grand-mère dans la famille, est devenue complètement folle et donc s'est enfermée dans sa chambre où elle geint à longueur de journée, ne voulant plus voir personne. Donc vous voyez, ambiance. Pour finir sur la fable, la petite chose qui semble encore un tout petit peu vivante dans cette famille, frappée par ce double deuil, c'est Mina, la jeune fille de Rosine, qui a 17-18 ans et qui est amoureuse d'Albert Bousquetier, qui descend tous les mardis de sa montagne pour voir sa belle jusqu'à ce que Rosine le foute dehors à coups de pied aux fesses. Il n'est pas vraiment la bienvenue dans la maison. Voilà, et donc Jean, l'étranger, rentre dans cette famille presque tétanisé par cette souffrance, par cette douleur. Et comme cet homme est un étranger, qu'on sait que l'étranger parfois permet de cristalliser ou de débloquer des choses, comme il a un rapport à la parole très étonnant, il sait dire les mots justes que l'autre a besoin d'entendre en face de lui, comme c'est un être étonnamment bon, il va en fait effectivement décoincer, débloquer, délier à la fois les langues. On va se mettre à parler justement de ces deuils-là, peut-être pour en faire le deuil. On va se remettre à parler de ce qui se passe entre les gens. Les deux amoureux vont peut-être se déclarer pour la première fois leur amour devant Rosine. La grand-mère va sortir de sa chambre, se mettre à parler à Jean. Enfin bref, tout ce monde-là va revivre un peu grâce à l'entrée de cet étranger. Ça va tellement revivre, la vie se remet tellement au travail, que la jeune fille de la maison, donc Mina, va tomber folle amoureuse de Jean qui, de façon étrange, ne voit rien, n'entend rien, alors que ça devient de plus en plus gros et manifeste, parce que Jean, en fait, on le découvre au fur et à mesure, est amoureux lui aussi, mais d'un fantôme.
Le metteur en scène François Rancillac, qui est également directeur du théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie à Paris, vient de vous résumer l'histoire de la pièce « Le bout de la route » de Jean Giono, qu'il présentera au Théâtre National de Marseille La Criée du 25 au 28 mai. Avec lui, les comédiens Tiphaine Rabot-Fournier et Tommy Luminé nous parleront de leur découverte de ce texte sombre et puissant, un des rares d'ailleurs de l'œuvre théâtrale de cet auteur, plus largement reconnu pour l'abondance de sa littérature. François Rancillac.
Je suis tombé sur cette pièce complètement par hasard parce qu'elle était dans la bibliothèque parentale quand j'étais plutôt jeuneau. Et c'est vrai que la lecture de ce texte m'a toujours bouleversé. C'est un texte très étonnant auquel je suis revenu très régulièrement en tant que lecteur. Et puis un jour, on se dit, il faut y aller, il faut foncer, il faut voir pourquoi est-ce que ça m'émeut autant, avec cette prétention qui est celle peut-être des artistes de dire si ça me touche, ça devrait quand même toucher aussi les autres. C'est une banalité de le dire, mais c'est quand même un de nos plus grands romanciers du XXe siècle. Malheureusement, on l'a un peu oublié. Mais je sais que Henri Miller, qui appréciait beaucoup Giono, disait « c'est votre Faulkner ». Giono en était très fier parce qu'il adorait Faulkner. C'est un auteur qui, en plus, est très très loin de tous les clichés, malheureusement, qui traînent sur lui. C'est-à-dire c'est tout sauf un auteur folkloriste, un auteur de la Provence, un auteur des bergers avec les cloches qui font « gling-gling ». C'est tout sauf ça. C'est un auteur qui écrit vraiment sur ce qui peut-être est au fond de l'humanité, les questions essentielles de la vie, de la mort. C'est un auteur tragique pour qui la vie est fondamentalement tragique, un auteur profondément athée qui se revendique aussi comme tel. Donc toutes les questions de la violence de la vie, de la violence de l'amour, de la force de la vie, c'est quelqu'un aussi qui a une sorte de conscience des puissances, de l'intensité de la vie et de la mort, et qui travaille essentiellement là-dessus. Alors évidemment, il écrit avec le monde qui l'entoure d'abord, Même si après il le réinvente complètement, c'est-à-dire qu'il écrit aussi en fonction d'un paysage qui est celui de la Provence de l'intérieur, de Manosque, qu'il écrit, met beaucoup en scène aussi les gens qu'il peut croiser dans sa vie, mais chaque fois pour complètement les réinventer, les transfigurer et chercher. En fait, c'est quelqu'un qui écrit vraiment sur la métaphysique. Donc dans le bout de la route, on est complètement là-dedans.
Comment vous êtes imprégné déjà de l'auteur, hein, puisque, comme on le disait, c'est vraiment un très grand romancier, mais pas forcément un homme de théâtre. Et puis vous êtes glissé dans la peau de ces personnages, puisque vous êtes quand même tous les deux très jeunes, on peut le rappeler.
Au début du travail sur le bout de la route, on a fait tout un travail à la table, durant 15 jours. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment comprendre les enjeux de la pièce et comprendre chacun comment nos personnages
fonctionnaient. Ça a été difficile, cette première approche ?
Non, finalement, ça a été... non, ça s'est fait plutôt... plutôt bien.
Et pour Tommy aussi, ça a été le même cheminement.
C'est très similaire. C'est vrai qu'au début, moi, je connaissais très peu Giono. J'avais lu au lycée Le Hussard sur le Toit, mais j'avais beaucoup d'a priori aussi sur ce que disait François. D'ailleurs, on le met à l'inverse, mais on dit que c'est quelque chose de régionaliste, qui part dans la Provence. Et moi, ça m'était pas du tout quotidien. C'était tellement étranger. Et quand j'ai lu la pièce, j'étais tellement touché par cette pièce que je me suis dit, ravale tes a priori, Tommy, et puis va travailler pour cette pièce. Et c'est vrai que François est assez doué pour arriver à nous mettre dans un endroit de simplicité et de justesse par rapport au texte. Et ce qui était très important pour moi, de travailler sur une simplicité vraiment, vraiment un dépouillement, quoi. Et c'était très très agréable, vraiment. Il m'a beaucoup appris.
Comment vous avez abordé cette mise en scène ?
Pour revenir aussi sur l'écriture, des choses qu'ont pu évoquer Tiphaine et Tommy, c'est très étonnant. C'est une écriture qui va chercher vraiment à l'essentiel. C'est presque un poème. Hein, aussi, on est dans le Giono d'avant-guerre qui cherche une écriture qui puisse vraiment raconter. Presque, on a l'impression d'entendre le vent, de sentir la terre, de sentir l'humus, de toucher. Encore une fois, des questions extrêmement essentielles. Qu'est-ce que c'est que la naissance ? Qu'est-ce que c'est que de naître dans une famille ? Qu'est-ce que c'est d'aimer, d'avoir peur d'aimer ? Qu'est-ce que c'est que la perte ? Vraiment des choses totalement essentielles qui sont racontées avec les mots, mais les plus simples du monde. Comme des mots presque trouvés au bord de la route et qui vous ramènent vraiment à cet endroit d'essentiel. C'est vraiment le génie de cet homme. Alors ça a l'air simplissime et en même temps, c'est tout le temps déroutant. Et que finalement le travail avec les acteurs, ça a été d'arriver à faire en sorte que ces mots puissent sonner juste tout le temps, c'est-à-dire on pourrait être au bord du cucu la praline parfois, du gnangnan, pour être jamais là-dedans, mais au contraire pour faire résonner tout ce que, disons, pour employer de grands mots, tout ce que la pièce a de métaphysique. Donc gros travail, ça a été de donner du corps à cette langue, c'est-à-dire donner du corps à ces personnages qui sont très incarnés, qui sont porteurs, encore une fois, de temps, d'air, de travail de la terre, de rapport à la nature, de dureté de la vie. Trouver cette épaisseur-là.
Chaque personnage, en tout cas, je vais parler de Mina, par exemple, vu que ça me concerne. Mina est une jeune femme qui n'a rien à voir avec moi, mais ça parle tellement de... c'est très concret, c'est très simple. Mina, c'est une jeune femme qui est amoureuse, qui n'est jamais sortie de son village. Et finalement, c'est très profond, ça parle de choses essentielles. Donc, au fur et à mesure, finalement, c'est assez facile de rentrer dans la langue de Jean Giono, parce que voilà, il parle d'amour,
parle
de mort, de vie. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ressent. Mmh. Et bon, après, François nous a amené quelque part. Il y a eu aussi l'appréhension du décor. C'est quand même un décor assez sobre et qui, en même temps, est très sombre.
Le décor, François, justement, comment vous l'avez créé ?
Ça a été le gros du travail en amont avec Jacques Molon, qui est le scénographe de ce spectacle, qui est aussi, pour l'anecdote, le directeur technique de la Comédie de Saint-Étienne, puisqu'en fait c'est le dernier spectacle que j'ai créé quand j'étais encore co-directeur à la Comédie de Saint-Étienne. En fait, comme je parlais beaucoup à Jacques, d'abord d'évacuer, ça, il était évidemment d'accord, d'évacuer tout réalisme, tout figuratif. Il n'était pas question de représenter sur scène une ferme dans les Alpes, hein, puisque ça se passe dans les Alpes, dans les années 30. Enfin, surtout éviter tout ce qui, en fait, empêcherait d'entendre ce qui se dit et ce qui se joue là-dedans. Je parlais aussi beaucoup à Jacques Mollon de cette maison brûlée d'une certaine façon par la douleur, de la nuit qui est si importante dans cette pièce et d'ailleurs dans l'œuvre de Jeunot en général. C'est vraiment une œuvre nocturne, une œuvre des profondeurs, de terre aussi stérile, comme si la terre était là aussi brûlée par la douleur que jamais plus rien ne pourrait a priori repousser. Voilà, comme ça en parlant de minéral aussi, à l'inverse du végétal, de la végétation, de la nature. À un moment, en rigolant, Jacques me dit mais tu me demandes de faire du Soulages. Donc ça nous a fait rire. On a sorti des livres de Pierre Soulages que je connaissais évidemment, et en regardant ça on s'est dit mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, donc on a évidemment regardé surtout les œuvres d'Outre-Noir de Soulages, enfin cet homme qui a passé quasiment sa vie à peindre en noir, à travailler surtout sur cette matière noire, luisante, pétrolifère, dont il enduit cette toile, et après qu'il griffe, qu'il peigne, qu'il laboure. Donc on retrouvait à travers, en s'inspirant directement, je cite l'inspiration dans le programme, comme ça il n'y a pas de malentendu, on prend son bien où on le trouve, comme disait Molière, en travaillant sur cette matière, on avait à la fois la terre, encore une fois une sorte de terre brûlée, et puis aussi on a effectivement un immense espace, un sol et un grand mur noir, mais qui ont été striés comme labourés. Et en fait un espace comme l'étoile de Soulages qui n'existe que grâce à la lumière, parce que quand vous êtes face à un tableau de Soulages, c'est vous, votre regard, selon votre orientation par rapport au tableau, selon comment le tableau est orienté, qui fait le tableau, et si vous bougez le tableau change complètement. Donc c'était aussi un endroit de travail formidable aussi pour la lumière, l'éclairagiste qui a fait, Cyril Chabert, qui a fait un travail assez extraordinaire pour arriver à faire flotter dans cet espace étrange, pour arriver à faire flotter les corps, les mots de ces êtres un peu perdus, comme ça, au cœur de la nuit, et qui, petit à petit, grâce à l'arrivée de cet étranger, vont réapprendre à vivre.
Et ce que vous avez découvert donc, en créant ce spectacle, est-ce que vous pensez que ça va vous amener à changer votre façon de travailler ?
Moi, c'est très clair.
Oui ?
Je ne travaillerai plus de la même façon. On a grandi.
Eh bien, merci François, merci Tommy et merci Tiphaine. Merci. Alors je rappelle que Le Bout de la Route sera présenté du 25 au 28 mai au Théâtre National La Criée à Marseille. Renseignements et réservations au 04 91 54 70 54, www.théâtre-lacriée.com. Merci à tous les trois et à bientôt.
Merci beaucoup, merci. Au revoir.